Semaine, j'ai été voir leur site internet afin de préparer cette conférence et je me suis rendu compte qu'à l'agenda, à l'ordre du jour des normes ISO, avait ce débat fort intéressant sur l'harmonisation transfrontalière des services funéraires. Donc, c'est le projet de normes ISO qui est actuellement en cours. Et donc, j'ai la chance de faire partie de ce cercle privilégié de personnes qui sont intéressées à cette question d'un intérêt vital pour nous tous. Et donc, juste pour vous rappeler brièvement l'hypothèse générale de ce séminaire gouverné par les normes, il était le suivant, c'est qu'il existe des dispositifs de normalisation, donc comme les normes ISO, qui sont en passe de concurrencer, voire remplacer les dispositifs juridiques classiques, et qui contribuent à installer un mode de régulation caractéristique des sociétés de contrôle, qui prend progressivement le pas sur le modèle politico-juridique de la souveraineté. Cette hypothèse de départ, et donc évidemment les normes ISO s'inscrivent complètement dans cette hypothèse. Afin d'essayer de décrire au mieux cette organisation, je vous propose un plan en quatre temps. Le premier chapitre, le premier temps, sera plutôt descriptif et va décrire donc les principales caractéristiques ou les principaux aspects de cette organisation internationale de normalisation qu'on appelle ISO. Après avoir décrit de manière peut-être relativement formelle cette organisation, je vous propose ensuite de regarder un petit peu l'évolution qu'a connue son objet, plus matériellement, l'évolution qui a eu lieu depuis 1947. Ensuite, une fois qu'on se sentira plus à l'aise par rapport aux aspects formels et matériels, on réfléchira aux enjeux, aux principaux enjeux de cette spécification, qui sont évidemment bien plus larges que les enjeux purement techniques. Et je terminerai ce bref exposé d'une bonne heure par les différentes stratégies des acteurs de cette normalisation. Alors, de manière assez classique, je vous propose la signification la plus couramment retenue pour le terme « normalisation internationale ». Donc, la normalisation internationale, nous dit la doctrine, fournit un cadre de référence, un langage technologique commun entre les fournisseurs, compris au sens large, et leurs clients, afin de faciliter les échanges et de faciliter le transfert de technologies. Voilà, ça c'est la normalisation internationale. Quant à l'ISO, l'ISO est une organisation internationale non gouvernementale qui est située, comme par hasard, à Genève, qui existe depuis 1947, et le nom ISO nous vient du grec qui veut donc dire égal. En effet, à l'époque, on n'arrivait pas à déterminer si on devait prendre la version anglaise IOS ou la version française OIN. On a préféré trancher par le grec. De manière vraiment très large, je dirais que les principales caractéristiques de cette institution sont le cadre égalitaire. C'est chaque membre a le droit de prendre part à l'élaboration de toute norme en préparation, quelle que soit la grandeur et l'importance de son pays, et il dispose d'un droit de vote égalitaire, c'est-à-dire que vous apparteniez au Liechtenstein ou aux États-Unis, c'est un membre, une voix. Cette organisation internationale se caractérise aussi par l'idée d'application volontaire de ces normes. L'ISO produit des normes, c'est un producteur de normes au premier titre, mais il ne procure aucun suivi. C'est après les États qui volontairement les reprennent s'ils le désirent. Donc, il faut bien se rendre compte que l'ISO n'est pas du tout investi d'une quelconque autorité de les mettre en vigueur. L'ISO n'est pas un organe de réglementation ou de législation. Néanmoins, vous vous rendrez vite compte, et vous le savez certainement déjà, que même si elles sont de nature volontaire, elles deviennent très rapidement, ou en tout cas elles peuvent devenir très rapidement, une exigence du marché. J'en prends pour exemple, c'est grâce aux normes ISO que les dimensions des containers sont devenues les mêmes à travers le monde entier, ou encore tout simplement le format des cartes bancaires. Comme autre caractéristique, il y a aussi cette idée d'impératif du marché. L'ISO est à l'écoute du marché, elle est là pour le marché. Toute norme ISO provient du marché, c'est le marché qui demande qu'on élabore une norme. Et les travaux effectués au sein de l'ISO sont faits par des experts du secteur, qu'ils soient industriels, techniques ou économiques, qui a demandé la norme et qui ensuite va les mettre en pratique. Avant-dernière caractéristique majeure de l'ISO, c'est le caractère consensuel. Les normes ISO se fondent toujours sur un consensus international. Nous y reviendrons un peu plus tard. Et enfin, c'est la mise à jour continue dont font l'objet les différentes normes ISO. C'est-à-dire qu'au maximum, au bout de 5 ans, les normes ISO sont toujours révisées, remises à jour, pour voir s'il faut les garder, les amender ou les supprimer de leur catalogue de normes. Voilà pour les principales caractéristiques. Alors, la première question à se poser quand on parle d'une organisation internationale, quelle que soit-elle, c'est d'abord qui en est membre. La question des adhérents. Alors, là, de manière, sur le site internet, ils disent que la participation en tant que membre à part entière de l'ISO est ouverte aux seuls instituts nationaux de normalisation, mais ça doit être les instituts nationaux de normalisation qui sont les plus représentatifs dans leur pays. Donc, chaque pays n'a droit qu'à envoyer, finalement, un membre. Et ce membre doit représenter l'agence nationale la plus représentative. Alors, ce statut d'agence nationale connaît des statuts fort variables d'un État à l'autre. Parce que dans certains pays, cette agence est une agence gouvernementale ou parapublique. C'est le cas du Japon et c'est le cas de la plupart de certains pays en développement. Dans d'autres, cette agence a plutôt un statut mixte. C'est le cas de la plupart des agences européennes, publiques-privées. Et plusieurs membres ont aussi des agences qui sont de nature strictement privée. Et j'en veux pour exemple des membres particulièrement importants puisqu'il s'agit des États-Unis et de l'Australie. Donc on voit vraiment que c'est une organisation non gouvernementale qui n'est vraiment pas faite par des agences, qui n'est vraiment pas composée d'agences étatiques, mais c'est un réseau d'agences à statut variable. Alors, je vous parle de membres. L'ISO a également finalement des membres à part entière, je vais dire des demi-membres et des membres que, comme on dit à Bruxelles. Donc il y a les membres à part entière qui sont communément appelés les comités membres. Eux, ce sont vraiment des membres plénipotentiaires. Ils ont le droit de participer à tous les travaux, ils ont le droit de voter, ils ont le droit de participer à tous les comités techniques, d'être dans l'administration de l'ISO. Il y en a actuellement 104, donc 104 pays qui ont envoyé un comité membre. En dessous de ces comités membres, il y a des membres correspondants. Ceux-là, il y en a 43. Ils ont le droit de... En fait, ils ont un peu la qualité de l'observateur. Ils ont le droit de participer au débat, de participer à l'élaboration des normes, mais ils n'ont pas le droit de voter. Et ça, c'est souvent pour des pays qui sont actuellement en transition et qui n'ont pas encore vraiment une agence nationale de normalisation. Ce sont des membres qui vont devenir des membres plénipotentiaires, mais qui sont vraiment en transition. Et la troisième qualité de membre, ce sont les membres abonnés. C'est principalement pour les pays en développement, et qui, eux, ont juste le droit d'être tenus informés. Donc, on peut dire que c'est une organisation, en conclusion, qui est entièrement entre les mains des pays développés. Alors, ça, c'est ce que j'ai trouvé, si vous voulez, dans les statuts de l'ISO. Et puis, je me suis dit, c'est quand même bizarre, mais oui, c'est une organisation qui est aux mains du marché, qui est à l'écoute du marché, et je n'ai retrouvé aucune trace d'un quelconque particulier, de secteur privé, d'entreprise privée, il n'y a rien. Donc, j'ai un petit peu effectué plus loin les recherches. Et je me suis rendu compte que finalement les particuliers et les entreprises privées étaient beaucoup plus présentes que ce qui était présenté dans les documents officiels. Et en fait, les particuliers et les entreprises privées ont la possibilité d'influencer de trois manières les prises de décision à l'ISO. Ils peuvent tout d'abord être envoyés par leur organisation nationale, par leur agence nationale comme experts nationaux. Donc, la Belgique n'a peut-être pas des spécialistes dans tous les domaines, et elle pourrait très bien envoyer un expert de telle entreprise privée comme expert belge au sein de l'ISO. Donc là, on peut voir que les entreprises privées peuvent, d'une certaine manière, influencer le cours des débats. Les particuliers peuvent également faire, de manière plus classique, du lobbying auprès de leur agence nationale pour que leur agence nationale embrasse leur point de vue et relaie ce point de vue au sein de l'ISO. Et alors, troisièmement, et c'est non des moindres, certaines entreprises privées, enfin les entreprises privées peuvent demander et parfois acquérir le statut d'agent de liaison d'un comité technique. À ce moment-là, ils ne votent pas, mais ils participent au débat et à l'édification du consensus. Donc là, c'est une forte présence. Donc on voit que finalement, les particuliers, les entreprises privées sont, je ne vais pas dire omniprésentes, mais en tout cas réellement présentes de cette organisation non gouvernementale. La gestion. Classiquement, la gestion de l'ISO, il y a deux organes majeurs, l'Assemblée Générale qui se réunit une fois par an, tous les membres y sont représentés et votent sur les grandes décisions stratégiques de cette organisation non gouvernementale. Et aussi le corollaire, c'est que les membres correspondants peuvent assister mais pas voter et les membres abonnés reçoivent sans doute une copie du procès-verbal. Concernant le deuxième organe, c'est le conseil de l'ISO. Le conseil de l'ISO, c'est vraiment la même idée qu'un conseil d'administration dans une société anonyme. Lui, il se réunit deux fois par an et sa composition obéit à une rotation garantissant la représentativité de tous les membres de l'ISO. Donc c'est vraiment une tournante et c'est plutôt l'organe donc exécutif de la chose. Alors, qui dit organisation internationale pose inévitablement la question du financement. Une fois de plus, le site internet nous apprend qu'il existe deux sources de financement dans l'ISO. La première source de financement, ce sont les cotisations des membres, à raison de 60%. Donc les membres payent une cotisation et cette cotisation est calculée sur base de leur revenu national brut et du volume de commerce. Bon, très bien. La deuxième source de 40%, quant à elle, provient du produit de la vente des normes ISO. Sur le site internet, vous pouvez acheter toute norme ISO en France suisse qui vous intéresse et elle vous est donc immédiatement livrée. Une fois de plus, si on fouille un petit peu plus loin, on se rend compte que ce financement que je viens de vous expliquer est uniquement le financement pour le secrétariat central. Et qu'en fait, ce secrétariat central ne représente qu'un cinquième du coût total du fonctionnement du système. Et donc, je me suis un petit peu posé la question, mais l'essentiel des coûts, c'est 80%, mais d'où viennent-ils ? Et en recherchant, je me suis rendu compte qu'il y avait de nouveau une double source. Soit c'était les comités membres, c'est-à-dire les membres à part entière qui finançaient l'un ou l'autre projet qui leur tenait particulièrement à cœur, ou bien, carrément, ce sont les organisations professionnelles d'un secteur qui fournissent des experts pour participer aux travaux techniques, qui subventionnent les travaux techniques, qui en assument les frais de voyage de toute la délégation, qui fournissent les locaux et qui permettent donc que ces travaux de l'ISO fonctionnent bien. Et donc vraiment, je trouve qu'on est face à un peu la même idée que les firmes pharmaceutiques par rapport aux médecins. C'est-à-dire qu'ils organisent pour les médecins des réunions, mais eux, évidemment, on n'y touche pas. Mais enfin, il y a juste, ils sont quand même là. Ils facilitent. Ce sont des facilitateurs, je dirais. Voilà un petit peu pour les aspects plus institutionnels. Je vais maintenant vous parler de l'élaboration de la norme. Comment se fait une norme ISO concrètement dans force de détail. Première étape, l'initiative. Qui prend l'initiative de demander une norme ISO dans le secteur, par exemple, du transport transfrontalier funéraire? Eh bien, cette initiative, elle peut émaner soit d'un secteur privé, soit de l'organisation ISO elle-même. Alors, si c'est l'initiative de l'élaboration d'une norme émane d'un secteur, c'est un secteur qui en a besoin, et à ce moment-là, il le fait savoir tout simplement à son agence nationale de normalisation, qui va soumettre cette proposition de norme ISO à l'Assemblée Générale, qui va décider à 50% si oui ou non cette proposition de norme dans tel secteur mérite d'être étudiée et peut continuer donc le processus, j'ai envie de dire législatif, mais plutôt le processus normatif. Juste pour vous donner une idée, quand une norme est acceptée donc à 50% d'aller plus loin, en quelque sorte, on lui attribue à ce moment-là un comité technique ou un sous-comité technique, ou bien on crée un comité technique si c'est une nouvelle technologie qui n'a pas encore de comité technique. Mais j'ai été frappé par les chiffres de ces comités techniques. À la fin 2006, l'ISO comptait 3041 comités ou sous-comités techniques. Donc on peut se rendre compte de l'ampleur de cette organisation non gouvernementale. En parallèle de ces initiatives émanant de secteurs en particulier, ça peut également venir de l'ISO elle-même. À cet égard, l'ISO compte trois, on va dire, comités de grande orientation internationale, de grande orientation stratégique, qui sont en charge de proposer des normes ISO lorsque elles considèrent que ça a un aspect peut-être multisectoriel. Parce qu'il y a par exemple l'idée de la protection des consommateurs. Ce n'est pas un secteur économique en tant que tel. Et donc, à ce moment-là, il faut un petit peu que l'ISO s'occupe, je dirais, du bien commun et propose une norme multisectorielle. Donc, ça, c'est possible. À cet égard, donc, il y a trois comités qui s'appellent le CASCO, COPOLCO et DEFCO, qui ont chacune des compétences plus particulières. Nous pourrons y revenir. Mais c'est juste pour vous dire qu'il existe aussi donc, des visions plus horizontales des normes ISO. Donc, une fois que la norme ISO a passé le premier stade des 50%, on lui attribue un comité technique. À ce moment-là, ce comité technique, eh bien, elle va décider de sa composition. Et sa composition est simple. Chaque membre à part entière peut demander d'envoyer son expert.
Donc là, les 104 membres peuvent dire, ben, nous, c'est un sujet qui nous intéresse, on envoie un expert, ou on délègue un expert du secteur privé qui va nous présenter. Donc, ces comités techniques, ce sont des experts qui représentent des délégations nationales. Et comme ils sont experts, donc, ils sont obligatoirement issus du secteur dans lequel la norme va s'appliquer, bien entendu. À ce noyau d'experts peuvent s'associer d'autres spécialistes qui représentent des agences gouvernementales qui auraient un intérêt, des laboratoires d'essais, des associations de consommateurs, des spécialistes de l'environnement si c'est une norme qui touche l'environnement, ou des milieux universitaires. Ça, on peut très bien l'imaginer, ça se fait couramment. Et alors, bien entendu, il est exigé de ses membres, quel que soit-il, qu'ils représentent l'intérêt général et non pas uniquement l'État qui les a envoyés, et pas uniquement le marché duquel ils sont issus. C'est sans doute un vœu pieux, mais c'est ce qui est marqué noir sur blanc. Malheureusement, je n'ai jamais fait partie d'un comité technique et je ne peux pas vous donner plus de détails sur la réalité de ce vœu. Une fois donc ce comité en route, tous les experts sont là, ils doivent arriver à un consensus. J'en avais parlé lors de l'introduction. Donc il faut qu'ils arrivent à un consensus sur l'aspect technique de la norme. Alors, le consensus, ce n'est pas l'unanimité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un droit de veto de la part de chacun des membres à part entière. C'est le président de ce comité technique qui, à un moment, arrête les débats en considérant qu'il y a un consensus suffisamment large entre les différents participants et qui considère que, donc, cette norme peut passer au stade ultérieur de l'élaboration de la norme. Donc ça, c'est vraiment une prérogative du président qui doit vraiment décider s'il y a un consensus suffisant, s'il n'y a pas d'opposition majeure à la norme technique telle que proposée. À ce moment-là, il renvoie ce projet de norme au secrétariat central. Le secrétariat central le diffuse aux 104 membres en version électronique. Et là, donc, chaque membre a 5 mois pour se prononcer sur si oui ou non il est d'accord avec cette norme, si oui ou non il considère que c'est une norme nécessaire. Pourquoi 5 mois ? Eh bien, dans de nombreux États, j'ai envie de dire dans de nombreux États membres, eh bien, il y a souvent des procédures publiques de la part des agences nationales. Donc là, ils demandent au secteur national concerné, ils demandent à leur association de consommateurs, ils recueillent les différents avis, ils les synthétisent, et donc ils votent au bout de 5 mois si oui ou non ils sont d'accord avec cette norme, et peuvent assortir ce vote de différentes observations techniques supplémentaires. Le secrétariat central recueille le tout, le redonne au comité technique. Ce comité technique, si le nombre de votes est suffisant, va continuer ses travaux. Le nombre de votes, c'est 2/3. Si 2/3 de oui, il va continuer ses travaux, va regarder les différentes observations et va proposer soit une nouvelle mouture, soit la même mouture de la norme ISO pour un vote final au même membre plénipotentiaire qui, là, ne dispose plus que de 2 mois pour voter si oui ou non ils sont d'accord avec cette norme et ne peuvent plus assortir leur vote d'une quelconque observation technique. Là, c'est un vote monologique, oui, non. Si cette note recueille 2/3 de suffrages positifs, à ce moment-là, le secrétariat central reprend la norme et la publie dans le journal, je veux dire, officiel de l'ISO, et ce sera une norme ISO au sens où nous l'entendons. Est-ce que cette procédure est claire pour tout le monde ? Parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu un système de navette. Est-ce que j'ai été clair ? Juste, j'aime bien les chiffres. Pour information, juste pour vous dire, il y a en moyenne 8 réunions de l'ISO qui ont lieu chaque jour quelque part dans le monde. Donc, c'est quand même assez important. Alors, voilà, on a une norme ISO, elle est publiée. Puisque je vous ai dit que c'était une norme volontaire, qu'est-ce qui va faire que cette norme volontaire va être appliquée dans les États membres ? Qu'est-ce qui va faire qu'on va la reprendre ? Donc, quels sont ces incitants à l'application ? En fait, je dirais que ces incitants, ils viennent par le haut, ils viennent par le bas. Par le haut, il y a tout d'abord des incitants qui viennent de l'OMC, plus précisément des accords de l'OTC. J'y reviendrai plus tard, mais juste l'idée, c'est que l'OMC favorise très lourdement l'utilisation de la normalisation dans le cadre des marchés mondiaux qui sont actuellement en vigueur. Donc, il y a d'un côté l'OMC. Et de l'autre côté, l'ISO, et par le haut aussi, je dirais que l'ISO elle-même favorise le fait que les États prennent cette norme comme standard national, parce qu'ils ont créé un système d'échelle. de 1 à 4. C'est-à-dire qu'on peut reprendre une norme à 100%, auquel cas la norme sera ISO 1. Mais si votre marché national a des particularités, ou si vous ne vous sentez pas, ou si le marché ne se sent pas encore tout à fait prêt, les États peuvent décider de prendre certains écarts par rapport à la norme ISO. Et donc, en fonction de l'importance des écarts, elle sera ISO 2, ISO 3, voire ISO 4. ISO 4, c'est que l'essentiel est quand même toujours présent, mais que sur de nombreux détails assez substantiels, eh bien, on n'a pas repris expressis verbis la norme ISO. Donc ça, c'était pour les incitants vers le haut. Pour les incitants vers le bas, je me suis dit, qu'est-ce qui pousse un État à prendre une norme ISO ? Mais tout simplement, si un État ne fait rien, c'est le marché qui va finalement s'emparer de la question. Et le marché risque, ou en tout cas les leaders du marché, risquent de se réunir et de eux-mêmes définir un standard qui va les arranger, eux, et sur lequel l'État n'a à ce moment-là plus rien à dire, plus aucune emprise, alors que dans l'ISO, il y avait quand même encore un petit échange. L'État avait normalement une agence nationale. Là, c'est vraiment le marché lui-même qui va déterminer ses propres standards et qui risque de devenir très rapidement la référence. Et si c'est le cas, l'État qui décide de réagir, mais trop tard, eh bien, à ce moment-là, je crois que c'est la catastrophe. Enfin, c'est pas la catastrophe, mais ça serait vraiment problématique pour lui, parce qu'à ce moment-là, il va reprendre le standard ISO et l'imposer sur son territoire. Mais à ce moment-là, l'entreprise nationale de cet État va avoir d'un côté les standards du marché et de l'autre côté les standards de l'État. Pour peu que ce ne soit pas exactement la même chose, ou que ce soit à ce moment-là différent, il va pénaliser ses propres entreprises, puisque les entreprises de l'État vont être soumises à un autre standard que le standard du marché. Et donc, il y a beaucoup de chances que ces entreprises subissent de grosses pertes financières, parce qu'elles devront se soumettre à plus de standards que ses concurrents. Donc, je dirais que ça, c'est également un incitant plutôt vers le bas. La norme a été votée, elle a été acceptée grâce à ces incitants par l'État. Je me suis ensuite posé la question de ce qu'on entend toujours, les questions d'accréditation, les questions de certification, de normes qui sont devenues obligatoires. Et là, je me suis posé cette question uniquement en Belgique. Et l'idée, c'est donc, l'État reprend une norme. L'État, à ce moment-là, va accréditer une ou plusieurs entreprises. Et ces entreprises, elles, vont avoir le pouvoir de certifier d'autres entreprises conformes à la norme ISO. Donc, il y a une logique d'accréditation de l'État envers une entreprise. Et cette entreprise qui a été accréditée va pouvoir certifier. Donc, c'est en deux temps. En Belgique, en fait, c'est la BELAC qui s'occupe de tout ça, qui s'occupe d'accréditer l'une ou l'autre entreprise. Et donc, la BELAC va, par exemple, accréditer AIB Vinsot. Tout le monde a déjà entendu parler AIB Vinsot. Et AIB Vinsot va elle-même dire certifier que telle ou telle installation électrique est ISO-compatible ou est compatible avec les normes nationales. Et donc, BELAC est, en Belgique, en tout cas, un organisme qui dépend directement, là on peut dire vraiment directement, du Service public fédéral d'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie. Et par un jeu d'accord international, les entreprises accréditées par BELAC bénéficient de certificats qui sont valables mondialement parce qu'ils ont pris des accords avec les différentes organisations internationales d'accréditation et de certification. Donc, bien joué la Belgique. Les normes ISO ne sont pas l'unique source de normalisation internationale, comme vous pouvez vous imaginer. Il existe d'autres partenaires internationaux. À cet égard, il y en a deux dont j'aimerais bien vous en tout cas citer le nom. C'est la Commission électrotechnique internationale et l'Union internationale de télécommunications. En deux mots, l'ISO a fait des accords de coopération avec deux agences internationales qui s'occupent de deux secteurs bien particuliers, qui sont en l'occurrence l'électrotechnique et les télécommunications. Et ils ont créé une coupole, ou plutôt un chapeau, entre ces trois organisations internationales qui s'appelle la WSC, c'est la Coopération mondiale de normalisation. Et à eux trois, on peut dire qu'ils couvrent le champ total de normalisation internationale organisée. Donc ça, c'était pour les partenaires internationaux. Alors, l'ISO a également des partenaires régionaux. Quand je dis régionaux, je n'entends pas régional au niveau région flamande ou région wallonne, mais c'est régionaux au sens de région du monde. Et donc, il y a différents types d'accords avec la région des pays arabes, la région de l'Amérique latine, de la zone pacifique, et bien entendu de l'Union européenne, l'Union européenne sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. Et donc, ces accords ont plus ou moins tous la même teneur. C'est une reconnaissance de l'ISO vis-à-vis des normes régionales et une reconnaissance des normes régionales vis-à-vis des normes ISO, avec donc un engagement pris par ces différentes institutions que si un organisme régional veut prendre une norme internationale, ben elle prendra de manière préférentielle celle de l'ISO et elle ne va pas faire un commerce parallèle de normes internationales. C'est un accord finalement d'harmonisation entre eux. Pour revenir à l'Union européenne, entre l'Union européenne et l'ISO, il y a eu un accord appelé l'accord de Vienne qui a été signé. Cet accord de Vienne a pour but d'établir un principe d'adoption commun, d'adoption commune, grâce à une procédure de vote parallèle. Donc, tous les votes sont faits en parallèle entre les États membres de l'Union européenne, les États membres de l'ISO, qui sont par ailleurs États membres de l'Union européenne, qui sont que de nouveau, il n'y ait pas de discordance. Donc, là, c'est un principe un peu plus simple, qui est le même que pour les associations régionales. Mais derrière ce principe aux allures simplistes se cache un système européen très particulier, que je vais essayer de vous expliquer. Vous savez, l'Union européenne, c'est le marché unique. C'est principalement un marché. Et donc, cette idée de marché unique était là déjà depuis le traité de Rome. Et pendant des décennies, on a essayé d'harmoniser le marché pour en faire un vrai marché unique avec une démarche qui émanait d'une logique verticale, du haut vers le bas. On a essayé de tout harmoniser, d'harmoniser toutes les normes du marché. Cette harmonisation prenait énormément de temps. Elle était très compliquée parce que les majorités requises au Conseil étaient l'unanimité à l'époque, jusque dans les années 80, ce qui faisait que chaque État membre qui n'était pas tout à fait d'accord pouvait s'y opposer, avait un droit de veto. Et en plus, qui dit une harmonisation par le haut, obligeait aussi de régler dans tous les moindres détails les directives européennes. Et vous imaginez, harmoniser tout un marché, vous devez vous rendre compte le nombre de règles et de normes, enfin le nombre de règles, de directives, de règlements que ça implique. Au point que, si je me souviens bien, dans les années 70, on avait des directives qui réglaient le son, enfin le nombre de... c'était quoi le bruit que devaient faire les tondeuses à gazon et tout. Donc on était vraiment arrivé dans une réglementation surdescriptive. À un moment, la Commission a dit « Assez, c'est la catastrophe, on n'y arrivera jamais ». Et ils ont adopté un livre blanc qui s'est appelé « Nouvelle approche ». Dans les années 80, 1985. Et donc, ils ont vraiment décidé de changer le système. Quoi. On change de paradigme, on arrête avec ça. Et cette nouvelle approche avait pour but de dire, voilà, nous formons une entente très cordiale entre nous, nous nous faisons confiance, basons-nous sur le principe de reconnaissance mutuelle. Un produit qui est mis librement et légalement en vigueur sur le marché d'un des États membres, un produit qui est mis donc sur le marché allemand, eh bien, les Allemands ont certainement fait bien attention à leur marché, leurs règles sont certainement bonnes. Il n'y a aucune raison qu'un autre État membre s'oppose à ce que ce produit allemand, finalement, émigre, ou plutôt soit exporté ou importé, donc, sur le territoire d'un autre État membre. Et donc, il y a un principe de réciprocité, de confiance mutuelle. Ça permettait d'un côté à ce que chaque État soit, finalement, le maître sur son propre marché, puisqu'il pouvait dicter les normes qu'il voulait sur son marché, il ne pouvait tout simplement pas s'opposer à ce que dans le cadre du marché unique qui était en train d'être créé, d'autres produits émanant des autres États membres, qui étaient donc ses collaborateurs, on peut dire comme ça, arrivent sur son marché. Il ne pouvait le faire que pour des bonnes raisons et devait dûment le justifier. Et donc évidemment, ce qui s'est passé, c'est que c'est une logique de marché qui a gagné, c'est que c'était l'État qui était le moins regardant, qui exportait le plus ses produits, c'est logique. Et donc évidemment, ce marché s'est naturellement déréglementé. Et c'est la norme, les règles les moins contraignantes qui ont gagné l'ensemble du marché. Donc, le marché européen s'est déréglementé, et je crois qu'à l'époque, dans les années 80, c'était une assez bonne chose parce qu'il y avait une surréglementation qui, en plus, était fragmentée entre les 12 ou, je ne sais plus dans les années 80 combien il y avait d'États membres, mais je crois 12 ou 15, en tout cas 12 États membres, et c'était donc très compliqué. Donc, ça, c'était la nouvelle approche avec les directives nouvelle approche. Mais l'Union européenne a quand même dit, oui, mais on n'est quand même pas dans une zone de non-droit, on ne peut pas tout permettre. Et donc, ils ont décidé de garder cette approche top-down pour un certain nombre de secteurs bien particuliers. Ils ont dit, on admet vos réglementations nationales et tout, mais sur un certain nombre de points, nous sommes intransigeants. En l'occurrence, c'était les secteurs de la santé, la protection du consommateur, classique, la protection de l'environnement et la protection des travailleurs, je crois, la sécurité. Et là, en fait, l'Union européenne a pris des directives contraignantes, donc un instrument classique de réglementation. On a pris quelques-unes. Je crois qu'actuellement, il y en a 21, si je me souviens bien. Il y a 21 directives qui règlent ces problèmes bien particuliers. Et dans ces directives étaient contenues ce qu'on a appelé en jargon communautaire les exigences essentielles. Ce sont des exigences essentielles que tout produit mis sur le marché doit respecter. Parce que ça touche donc à l'environnement, à la protection du consommateur et tout. Voilà, la réglementation s'arrête là. Et là, la Commission a été un petit peu originale, puisqu'elle a dit, ben voilà, ces directives, on vous annexe un certain nombre de normes qui ne sont pas obligatoires, mais qui vous faciliteront la vie. Parce que si vous répondez aux différents critères établis par ces normes, non plus par ces règles, par ces normes, à ce moment-là, on considère que votre produit est compatible avec ces exigences essentielles. Ces normes ne sont pas obligatoires. Donc, c'est un peu l'idée de normes ISO, mais là, ce sont des normes CEN. CEN pour Comité européen de normalisation. Ces normes CEN, qui sont bien souvent des normes ISO, ne sont pas obligatoires, mais facilitent la vie des fabricants qui doivent mettre sur le marché ces produits. Parce qu'il suffit qu'ils soient compatibles avec ces normes CEN pour qu'ils remplissent les exigences de ces exigences essentielles. Est-ce que je suis clair ? D'accord. Et pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas rendus obligatoires ? C'était pour garder une innovation technique possible. C'est-à-dire que tout fabricant peut dire « Bon, mais c'est bien votre norme européenne. » Mais moi, j'ai l'impression qu'on peut atteindre cet objectif de sécurité du travailleur ou du consommateur par un autre moyen. Et à ce moment-là, pourquoi pas l'Union européenne ne s'y oppose pas ? Et donc là, ce sont des organismes certificateurs qui dépendent de la Commission, en tout cas qui sont agréés par la Commission, qui vont vérifier si, non pas ils répondent aux normes ISO ou CEN, mais s'ils répondent bien aux exigences, des exigences essentielles. Donc vous voyez un petit peu cette approche, je trouvais qu'il méritait d'être expliquée parce qu'elle est relativement originale et on peut dire qu'elle a relativement bien fonctionné parce que quand on regarde un petit peu les chiffres des échanges interétatiques entre avant 1985 et après 1985, et même que, bon, évidemment, le marché s'est développé, on peut dire qu'il y a un véritable boom grâce à cette nouvelle approche. Voilà. Je vous ai parlé des partenaires. Voilà, dans les organisations, l'ISO a des partenaires. Elle a également des concurrents. Les concurrents étant les consortiums privés. Les normes de consortium, en fait, sont des spécifications qui sont mises à la disposition de tous, mais qui sont développées par un nombre plus ou moins restreint d'industries. Elles portent principalement sur les différentes composantes nécessaires au développement d'un nouveau produit. En fait, j'ai connu ces consortiums privés à travers l'exemple du CD-ROM. En fait, le CD-ROM que tout le monde a, tout simplement, c'est Sony, Toshiba, je ne sais plus quoi, qui s'étaient rencontrés lors d'une rencontre internationale, un séminaire international, et qui se sont mis d'accord sur les spécifications techniques du CD-ROM. Et on peut voir qu'il y a vraiment eu, le marché a pris ce CD-ROM et en a fait vraiment son standard absolu. Évidemment, pour les industriels, ces normes de consortium ont un grand avantage, parce qu'elles sont très flexibles, et elles sont prises avec une extrême rapidité, beaucoup plus rapidement que l'ISO. Et j'en profite pour faire une petite digression. L'ISO, avant, avait des délais extrêmement longs pour l'élaboration de ces normes. Vous pouvez remarquer que maintenant, c'est 5 mois, 2 mois, ça va assez vite. C'était une réforme qui a été faite récemment, justement, pour essayer de se mettre au niveau de ses concurrents, les consortiums privés. Donc on a accéléré. Évidemment, l'avantage, c'est que maintenant, on peut jouir de la technologie. Donc tout ce qui est e-mail et tout ça a permis de ne pas devoir faire toujours des réunions des experts en personne physique et de le faire par voie électronique. Mais donc, ces normes de consortiums privés sont flexibles, sont rapides et elles répondent bien aux produits qui ont un cycle de vie de plus en plus court. Tout ce qui est de la haute technologie a finalement un cycle de vie qui est entre 1 an et 2, et puis on passe à une nouvelle technologie. Donc il faut que le marché puisse répondre rapidement à cet égard. Alors, ces consortiums ne sont par définition pas très bien connus, il en existe des centaines. J'en ai juste isolé un pour bien vous fixer l'existence de ces consortiums. Ça s'appelle l'IETF, c'est l'Internet Engineering Task Force, qui fut créé en 1986 autour seulement d'une petite vingtaine d'ingénieurs et qui compte actuellement plus de 2000 membres. Et elle est spécialement connue et spécialement active parce que c'est le consortium qui a développé et qui est responsable de tout ce qui est le suivi des normes fondatrices de l'Internet. Et donc c'est eux qui s'occupent des protocoles d'interconnexion, des adresses électroniques SMTP et tout ça. Donc je vois que Benoît connaît bien. Et cette IETF ne fait partie que d'un large réseau de consortiums privés. Je sais que j'ai dénombré plus de 140 organisations actives dans le seul domaine des technologies de l'information. Donc Voilà, en fonction de chaque secteur, il y a des dizaines, des centaines de consortiums privés. Et ces consortiums sont particulièrement présents aux États-Unis. Et ce n'est pas un hasard, les États-Unis qui n'ont pas d'agence nationale de normalisation, ni d'agence nationale à statut public-privé, ils n'ont pas d'agence nationale du tout. Donc le terrain était libre pour que ces consortiums privés s'y développent abondamment. J'ai donc fini mon premier chapitre, qui est de loin le plus long. Et maintenant, je vais un petit peu vous parler de l'objet des spécifications techniques, parce que cet objet, en fait, est loin d'être uniforme et a connu une évolution énorme à travers le temps. Et quand je dis à travers le temps, ce n'est pas uniquement à travers l'histoire de l'ISO qui date de 1947, et qui n'a donc que 60 ans, mais même quand on voit l'histoire de la normalisation. Je vous en prie.
Je reviens de arrière.
Oui, volontiers.
Ça veut dire que les États-Unis n'envoient que des experts privés, au fond, ou des délégués de consortium
oui.
privés
à... Donc, quand un secteur décide d'élaborer une norme, eh bien, les États-Unis envoient comme représentant un représentant de leur secteur privé pour représenter les États-Unis. En soi, ce n'est pas grave pour les États-Unis, ces normes sont volontaires, donc si ça ne leur convient pas, ce ne sera pas la première fois, mais ils n'appliqueront pas la norme. Ou si la norme ne convient pas au secteur privé, eh bien le marché américain ne la prendra pas. Donc, à travers l'histoire de la normalisation, on peut voir que vraiment, il y a eu une toute grande évolution, c'est-à-dire que surmonté ne fût-ce qu'à la Révolution française, qui a fait un grand acte de normalisation, puisqu'il a quand même mis en place un système métrique décimal pour tout l'Empire français. Pour tout le territoire français de l'époque. Après la Révolution française, je me suis dit, la seconde révolution industrielle a permis de la normalisation au point de vue des pièces détachées, de l'acier, des chemins de fer, de l'électricité, des communications à distance. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, l'avènement de l'État-providence, où là plutôt il y a une normalisation dans tout ce qui était la santé, la sécurité sur les lieux du travail, la protection du consommateur, ce sont des idées qui sont nées après l'État-providence. Dans les années 80 et 90, eh bien, il y a eu cette idée de chaîne de valeur globale et les préoccupations étaient plus liées à l'environnement ainsi que à la qualité des services. Et donc là, on a vu naître dans l'ISO les normes ISO 9000, 9001, etc., les normes ISO 14000. Les normes ISO 9001, c'est pour la gestion des systèmes de qualité totale. On y reviendra éventuellement plus tard. Et les normes ISO 14000, c'est tout ce qui était lié à l'environnement et qui sont devenus des grands standards internationaux. Et aujourd'hui, la normalisation internationale est en train de se déployer dans un ensemble toujours plus vaste de normes sociétales, en s'aventurant dans le domaine des services, tels que le traitement des plaintes, tels que la responsabilité sociale des entreprises, etc. Donc, je ne l'évoque pas maintenant, mais pendant les trois quarts d'heure de questions-réponses, je me ferai un plaisir d'un petit peu plus développer, par exemple, cette norme 9001, qui est un standard important du marché. Et je rebondis assez rapidement de l'objet aux enjeux de la spécification. Les enjeux de la spécification, il y a d'abord le discours très politiquement correct et un petit peu du monde des bisounours qui nous est proposé par le site internet toujours des normes ISO qui disent que... La normalisation de l'ISO permet de développer et fabriquer des produits et services plus efficaces, plus sûrs, plus propres, qu'il facilite le commerce, qu'il le rend plus équitable, qu'il protège la santé, la sécurité, l'environnement, qu'il assure un partage des avancées technologiques, qu'il diffuse l'innovation, qu'il protège les consommateurs et qu'il apporte des solutions aux problèmes communs. Donc, c'est un très beau schéma. Et en effet... Dans une certaine mesure, avec l'ISO, il s'agissait de construire et de certifier des standards techniques qui avaient pour but tout d'abord d'assurer la transparence des marchés pour permettre une concurrence parfaite, ou en tout cas presque parfaite, et de réduire les coûts de transaction. Effectivement, un marché qui a en face de lui deux produits, qui sont tous les deux ISO 50000 par exemple, eh bien, ce sera tout une question de prix, ce sera le moins cher qui l'emportera. Si maintenant vous avez en face de vous un bien qui a des caractéristiques différentes d'un autre et qui a des avantages sur l'un et pas sur l'autre et tout, eh bien c'est vrai que le marché aura plus de difficultés et que le critère du prix ne sera peut-être pas ou sans doute pas le critère déterminant. Donc, grâce aux normes ISO et à la normalisation, j'ai envie de dire en général, ça permettait d'assurer une plus grande transparence du marché et de réduire les coûts de transaction. Mais, force est de constater que les standards internationaux n'ont jamais été un problème purement technique. Les consensus affichés par l'ISO sur les standards industriels occultent de nombreux autres enjeux que je vais un petit peu essayer de résumer avec vous. Déjà, prenons l'exemple du système métrique décimal de la Révolution française. On pourrait se dire apparemment, en termes techniques, c'est juste des normes physiques, rien de plus, rien de moins. Pas du tout. Il y avait ça, excusez-moi, pas du tout, mais il y avait des choses largement en plus. Il s'agissait également d'abolir les conséquences sociales du système arbitraire des deux poids, deux mesures de l'Ancien Régime. C'était en fait une des doléances principales de la paysannerie pour mettre fin à la féodalité qui modifiait continuellement les étalons afin de se faire payer en nature les redevances ou impôts. Donc on voit déjà qu'à l'époque, il y avait déjà des enjeux qui étaient derrière cette spécification technique. Plus récemment, il y a bien entendu des enjeux d'ordre économique, technique et économique, qui ont trait à la conquête de l'un ou l'autre marché. Alors, justement, l'actualité nous offre un très bel exemple de guerre économique sur des normes ISO, et elle met en scène cette entreprise que nous connaissons tous bien, qui est Microsoft. Assez étonnant, Microsoft, qui ne s'est jamais intéressé à la normalisation internationale, puisque c'est le leader incontesté du marché, et que son produit devient de fait le standard international. Il peut paraître étonnant que tout à coup, elle veuille que un de ses produits, en l'occurrence les fichiers Office Open XML, soit ISO-ifié. Pourquoi ? C'est la première question à se poser. Mais l'enjeu était double. C'est qu'il voulait gagner des nouveaux marchés qui demandaient maintenant des normes ISO. Je crois que c'est le gouvernement brésilien et d'autres pays a décidé que toute son administration et l'archivage de son administration devait se faire par voie informatique et se faire sur des fichiers qui devaient être ouverts. Parce que ces États n'avaient nullement envie d'être dépendants à un moment ou à un autre d'une entreprise privée qui ne voudrait plus leur donner, je ne sais pas moi, les mises à jour de ce fichier ou quoi que ce soit. Donc il y avait des marchés où il y avait une barrière à l'entrée qui était d'être ISO-ifié. Et donc là, Microsoft s'est dit, ben, je vais devoir ISO-ifier mon produit. Et alors quand on creuse encore un petit peu plus loin, on se rend compte qu'il existe déjà une norme ISO pour ce genre de fichier, c'est la norme ODF. Et cette norme ODF est particulièrement soutenue par IBM. Et donc on se comprend qu'en plus de ça, elle essaye de mettre sur le côté un de ses concurrents en essayant de faire ISO. Alors là justement, pas de chance pour Microsoft, elle a été rejetée donc, à ce vote de 2/3 parce qu'un certain nombre de membres, dont quand même des pays comme, je crois justement, le Brésil, la France, l'Angleterre et toute une série de pays importants, quoique ce n'est pas important le cas de l'ISO, mais enfin, juste pour, vous, pour la petite anecdote, ont refusé, ils n'ont pas atteint le quorum nécessaire pour passer plus loin. Donc, on voit bien qu'il n'y avait pas qu'un enjeu technique, il y avait également un enjeu économique important et les exemples sont évidemment légion. Au-delà des, il peut également avoir, donc, au-delà des aspects techniques, des enjeux sociaux, parce que, comme je vous l'ai dit, avec l'élargissement des objets de la normalisation des biens vers les services, en tout cas, les biens restent, mais l'élargissement vers les services, eh bien, l'ISO s'est de plus en plus porté vers le terrain social. Et je remarque, à travers les différents documents qui sont passés entre les mains, que de plus en plus, l'ISO est devenu un forum politique qui traite de questions sociales. Prenons l'exemple d'une norme ISO 26000, qui doit créer, elle n'existe pas encore, elle est en cours de discussion, elle doit créer une vision partagée de la responsabilité sociale des entreprises au niveau international. Et vraiment, d'après les documents que j'ai eu entre les mains, il y a deux visions du monde de la société, en tout cas deux conceptions des sociétés qui s'opposent. Il y a vraiment la conception, je dirais, anglo-saxonne et la conception européenne continentale. Cette norme ISO 26000 doit, par exemple, je vois ça dans son ordre du jour, établir le lien entre la responsabilité sociale des entreprises et la philanthropie, ainsi qu'établir le lien entre la responsabilité sociale des entreprises et la morale. Donc vous vous imaginez que là, on n'a pas une conception consensuelle de qu'est-ce que la morale, qu'est-ce que la philanthropie pour une société. Et donc je suis tombé sur un certain nombre de documents où vraiment on voit que certains membres, donc anglo-saxons, comme je vous l'ai dit, mais, voit vraiment l'entreprise comme un être moral dont le comportement balance entre le vice et la vertu. Il y a cette idée contractualiste de la société, de l'entreprise. Quand je dis société, c'est au sens d'entreprise. Une entreprise, c'est un nœud de contrat. Ces effets négatifs éventuels, oui, l'entreprise pollue, c'est vrai, oui, l'entreprise exploite des enfants, mais d'un autre côté, nous développons des activités caritatives et philanthropiques. C'est vraiment cette idée, on fait mal d'un côté, mais de l'autre côté, on a quand même nos œuvres. C'est la conception qui est développée par certains pays anglo-saxons, en tout cas. Et d'un autre côté, on a cette conception plus européenne, continentale, qui voit plus la société comme, je ne sais pas si on peut dire un être politique, c'est-à-dire qu'elle doit faire des choix collectifs quand même, et que, comment dire, elle a pour objet de... Une société a également pour objet de réaliser des fonctions sociales au bénéfice de la communauté ou de l'État. Alors, je grossis le trait, évidemment, je ne veux pas faire passer les entreprises européennes pour des anges et les entreprises anglo-saxonnes pour des méchants, mais vraiment, on voit qu'il y a des conceptions très différentes de qu'est-ce qu'une société au sein de notre société qui s'affronte, et le forum de cette discussion est l'ISO. Et donc, ça m'a fort étonné. Donc, on voit bien que les enjeux débordent largement, là, les enjeux techniques. Qui dit enjeux sociaux dit aussi enjeux politiques, bien entendu. Et là, la normalisation, elle navigue réellement entre deux eaux. Elle établit des spécifications techniques sur une base volontaire par l'association de professionnels de chaque secteur. Mais dans un autre temps, la normalisation, c'est quand même encore les États, les gouvernements qui définissent la ligne de partage entre ce qui est volontaire, enfin, entre ce qui est appliqué et ce qui ne l'est pas, entre la législation obligatoire et juste l'incitant. Ça reste encore eux qui gardent finalement cette prise de décision. C'est eux qui encadrent les conditions requises pour l'élaboration des normes et leur reconnaissance sur le territoire national et qui décident de mener telle ou telle politique. Et donc, en fait, ce débat sur la normalisation, au point de vue politique, départage, ceux qui veulent limiter la normalisation aux seules distorsions du marché, aux seules distorsions, pardon, qui entravent le marché, et ceux qui, au contraire, ont pour ambition d'étendre la normalisation à un ensemble de domaines qui étaient auparavant réservés à l'emprise de la loi. Ils essayent un petit peu de faire un effet contagion, que la normalisation aille à des secteurs comme, je ne sais pas moi, le secteur non marchand, tout ce qui est la question de la justice, de l'enseignement, on le voit dans le cadre de ce séminaire, de l'aide sociale. À cet égard, je ne résiste pas à l'envie de vous dire qu'une fois de plus, un cocorico belge, nous avons le CPAS de Waregem qui s'est fait isoifier l'année dernière. Donc ça, c'est certifié, qui s'est fait certifier l'année dernière. Et donc, les tenants de cette conception essayent de faire passer un certain nombre de secteurs qui étaient avant non marchands, qui avaient leur propre logique interne, dans une logique de normalisation, dans une logique de marché qui est tournée vers, disons qu'une logique de normalisation n'est pas souvent tournée vers la même logique que la logique de ce secteur avant sa normalisation. Et donc, voilà, on voit comment cette norme est prise, on voit l'objet de cette norme qui a beaucoup évolué, on voit qu'il y a des enjeux multiples qui vont du technique à l'économique en passant par le politique et le social. Mais ce dont je ne vous ai pas encore parlé, et c'est mon quatrième et dernier chapitre, c'est la stratégie des acteurs, qui est évidemment le chapitre que je préfère. Alors, les acteurs sont multiples, mais là maintenant, je crois qu'il faut absolument que je vous parle de l'OMC, qui est un acteur fondamental dans la normalisation et que j'ai passé sous silence jusqu'à présent. D'autant plus que l'OMC a passé un seuil crucial en 1995. En effet, contrairement au GATT, qui est un peu les anciens accords de l'OMC, en 1995, il y a eu des accords sur les obstacles techniques au commerce, ce qu'on appelle les accords OTC, qui font maintenant partie intégrante du dispositif réglementaire de l'OMC. Donc l'OTC fait partie de l'OMC, complètement. Et cet OTC confère aux normes internationales un rôle majeur dans l'harmonisation des spécifications techniques applicables aux biens et aux services. Et qu'est-ce qu'il dit cet accord OTC? Eh bien, il établit deux règles. Il dit d'une part, la réglementation d'un État n'est acceptable, j'aime déjà bien la formulation, la réglementation d'un État n'est acceptable que si elle répond à des objectifs légitimes, clairement établis, qui sont la sécurité, la santé et l'environnement. D'autre part, l'objectif, donc la deuxième règle, c'est que l'objectif est d'éliminer les obstacles non nécessaires au commerce et que les États s'engagent à remplacer les normes établies dans le seul cadre national par les normes internationales existantes. Donc là, on peut dire qu'il y a vraiment une incitation énorme à la normalisation, puisque les États sont maintenant presque obligés de prouver que leurs normes, enfin que leurs règles, est une bonne règle aux yeux de l'OMC, et que pour le reste, si ce n'est pas une bonne règle, eh bien, alors à ce moment-là, on doit prendre les normes internationales existantes. Donc voilà, ça c'est la stratégie de cet acteur OMC, qui veut quand même dire que c'est les pays les plus riches économiquement, les plus développés. Hein, les signataires de l'OMC sont principalement ceux-là, ou en tout cas ceux qui décident à l'OMC.
C'est tout le monde.
C'est tout le monde, mais il y a un petit diktat de la part des pays les plus puissants au sein de l'OMC, en tout cas en 1995, pour établir ce genre de règles-là, même si c'est vrai que le forum est plus large. Alors, concernant la stratégie des acteurs, pour ne pas rentrer sur chaque acteur, je dirais qu'il y a de nouveau deux modèles sensiblement différents qui s'affrontent. Les deux portent sur... Donc, ces deux modèles qui s'affrontent portent sur la même chose. Elles portent sur la capacité de la normalisation internationale à encadrer le marché en dehors des enceintes nationales et intergouvernementales. Ça, ils sont tous les deux d'accord sur ce point-là. Mais alors, ils varient l'un par rapport à l'autre. D'un côté... Il y a un mouvement qui est celui du transfert de la compétence universelle de la loi républicaine vers la norme internationale. C'est un mouvement qui est fort en phase avec le discours sur la mondialisation responsable. Juridiquement, ce mouvement s'appuie sur le fait qu'il n'y a pas de limite intrinsèque dans les critères établis par l'OMC pour défendre le champ de reconnaissance de la normalisation internationale. Effectivement, l'OMC ne dit pas pour tel ou tel secteur d'étude. Institutionnellement, ce mouvement s'inscrit dans l'intersection des pôles privés et publics, où une certaine influence de la sphère publique est maintenue dans les procédures organisationnelles. Et territorialement, elle est limitée à une échelle qui préserve une dimension endogène au système de reconnaissance des normes. Et c'est dans cette perspective que, par exemple, il y a eu le British Standard Institute, donc qui est l'organisme de normalisation britannique, qui a formulé un grand nombre de propositions de normes internationales dans le domaine de la santé, de l'environnement ou de la sécurité. Donc là, on voit que l'Office de normalisation britannique essaye de faire adopter des normes internationales dans ces domaines qui relèvent normalement quand même de l'État au sens strict. Alors, en face de ce modèle, on a un autre modèle qui, lui, consiste à passer directement d'un encadrement corporatiste et national de la concurrence. On passe de là à la reconnaissance universelle des normes sectorielles minimales. Ça, c'est un petit peu la version hardcore, je dirais, de la normalisation. Leur mot d'ordre, leur devise est une norme, un test, accepté globalement et sur une base sectorielle. Leur idée, c'est d'établir un marché mondial qui est le plus déréglementé possible, dans lequel la normalisation ne devrait intervenir que lorsqu'elle accroît la valeur actionnariale. Le moyen choisi par les défenseurs de cette mouvance, c'est de mettre sur un pied d'égalité les organismes officiels, les organismes privés, américains ou autres, les consortiums privés, et court-circuiter les exigences minimales en matière de consultation et de représentation des États incluses dans les procédures de l'ISO. Cette stratégie de ces acteurs est particulièrement importante au sein de l'ICSCA, qui s'appelle ce qui est l'abréviation de Industry Cooperation on Standards and Conformity Assessment, qui est un groupe d'intérêt très connu qui rassemble les plus grosses multinationales mondiales et évidemment en particulier celles qui opèrent dans les nouvelles technologies de l'information et des télécommunications ou celles où les grandes multinationales qui sont soumises à un catalogue très étendu de normes à respecter pour des questions de sécurité ou de protection des consommateurs. Donc on pense aux multinationales qui font des machines de chantier, les multinationales dans le secteur de l'automobile ou des appareils électroménagers qui ont plein de normes à devoir respecter. Et donc, cette ICSCA défend ce point de vue et j'ai adoré la phrase du président de cette association qui a récemment écrit un livre dans lequel il considère que les normes ISO, et là je cite cette grande phrase, les normes ISO, c'est une abstraction technique formulée par des employés subalternes qui ne semblent avoir aucune idée des complexités de l'esprit d'entreprise requis pour gérer la myriade de fonctions auxquelles sont confrontés de façon quotidienne les chefs d'entreprise. Là, c'est une prise de position très, très forte à l'encontre des normes ISO. Je ne rentre pas dans plus de détails concernant cette guéguerre, mais moi, il y a quelque chose qui m'a fort frappé, c'est que les défenseurs de la première version ou de la deuxième version, eh bien, ils ont quelque chose en commun, c'est que l'un comme l'autre, ils ont fait leur deuil de l'État. Ça, c'est déjà clair. Donc, la nature de leur engagement ne diffère pas vraiment. C'est juste une question de degré, c'est une question de gradation dans leur manière de voir la normalisation. Et donc, pour eux, vraiment, le modèle de l'État tout-puissant est révolu. Et de toute façon, ils disent, si l'État désire reprendre les choses en main, eh bien, ils vont de toute façon mettre leur entreprise en faillite parce que, voilà, les marchés sont globalisés. Si l'Allemagne décide maintenant d'imposer telle ou telle norme allemande, eh bien, il va défavoriser ses propres entreprises et elles seront moins compétitives. Donc, on sait très bien que les États sont maintenant pieds et poings liés. Nous voici arrivés à l'issue de cette présentation d'exactement une heure, et j'en arrive donc à ma conclusion, dans laquelle je vous rappelle l'hypothèse, donc c'était que les dispositifs de normalisation sont en passe de concurrencer, voire remplacer les dispositifs juridiques classiques. Alors, puisqu'on a mis une hypothèse, il faut se demander, est-elle vérifiée? Est-on d'accord? Alors, pour un petit peu répéter ce qu'on a dit, mais vraiment très brièvement, d'un côté, les normes ISO, ça reste des normes volontaires, la normalisation, ça reste des normes volontaires, où les États sont encore entièrement libres de décider de les adopter ou non. En outre, elles émanent quand même d'une organisation non gouvernementale qui n'est pas un organe de réglementation ou de législation. D'un autre côté, force est de constater qu'elles sont bien souvent, ces normes, devenues des exigences du marché. Le marché, en général, constate très vite que... En fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que le marché voit que les États ou les organisations internationales comme l'Union européenne ou d'autres organisations internationales qui peuvent prendre de la réglementation n'arrivent pas facilement à se mettre d'accord sur des consensus internationaux. Et donc, que fait le marché? Bien, le marché, soit il prend ses propres normes, soit il va prendre des normes ISO qui sont déjà existantes. Et il les prend, il dit, à titre provisoire, le temps que vous, État, vous preniez une réglementation. Et on remarque que ce provisoire devient très rapidement définitif parce que le marché finalement a pris ses standards, que ces standards s'imposent et que les États, de leur manque de rapidité dans leur prise de décision, eh bien, poussent à ce que la normalisation devienne la norme. Et en plus, quand on regarde un petit peu les accords de l'OMC et quand on voit un petit peu la nouvelle approche de l'Union européenne, on voit vraiment que ces deux organisations, elles font plus qu'autoriser, mais elles incitent explicitement à un transfert vers la normalisation volontaire d'un ensemble de spécifications techniques, aux enjeux qui sont toujours plus importants, et qui relevaient jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps du domaine réglementaire national. Dès lors, je crois qu'on peut dire que la normalisation internationale, c'est clairement imposé comme l'instrument par excellence de la mondialisation, et que c'est vrai, malgré qu'on nous apprenne dans nos différentes facultés de droit que tout ce qui est normalisation est considéré comme l'étage le plus bas de la hiérarchie des normes. Et j'ai trouvé une étude dans laquelle il était marqué qu'en fait la normalisation affecte maintenant quand même jusqu'à 80% du commerce mondial des services et des biens. 80%. C'est quand même très important. Et donc, en guise de conclusion toute finale, j'aurais plutôt choisi comme titre de séminaire, à la place de « Gouverner par les normes », le titre de « Les normes font la loi ». Car celles-ci sont... Oui. Car celles-ci sont plus aptes à se déployer dans la nébuleuse des institutions et des réseaux publics et privés, officiels et ou officieux de la gestion globale du capitalisme, au point de mettre... petit à petit, la loi, non pas hors la loi, mais la loi hors norme. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup à nous de nous avoir fait entrer dans les arcanes.